Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Et nous aimons Hitchcock. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je vous parle de Sueur froide. Alors, Sueur froide ou Vertigo. C'est intéressant parce que c'est un film où des personnages créent des doubles en négatif pour réaliser toute leur folie. On avait eu l'occasion de parler de d'autres films qui traitent de ce sujet. Et donc là, je vais vous parler de ce film de Hitch, pour les intimes. C'est un film qui a été réalisé en 1958 et il nous entraîne dans la spirale d'un amour complètement démentiel de la part d'un homme, c'est un ancien officier, un policier, qui souffre d'acrophobie. L'acrophobie, c'est le vertige, tout simplement. Et l'amour va le piéger, mais aussi le sauver d'une certaine façon, ce que nous verrons peut-être à la fin du film. Alors, dans ce film, il est à noter que Scotty, ce fameux policier qui est joué par James Stewart, passe à deux reprises ce que j'appelle dans le creux de la vague, c'est-à-dire dans une profonde mélancolie, à cause de deux émotions très fortes, et on peut le comprendre. La première, il est le témoin, alors que justement il est policier et qu'il course, il y a une course sur les toits, il court derrière le vagabond. Il est le témoin de la chute de son collègue au pied d'un immeuble parce qu'il se trouve que lui-même, Scotty, tombe, se raccroche à un tuyau en zinc. Malheureusement, sous son poids, ça plie. Son policier, son collègue, veut lui tendre la main pour le sortir de ce mauvais pas. Et malheureusement, le collègue tombe au pied de la... Il était accroché à une gouttière, évidemment. Donc, il tombe, il s'écrase en bas de l'immeuble, ce qui, évidemment, on peut le comprendre, est terrible. Et ça, Hitchcock est très amusant parce qu'il ne montre pas comment, finalement, Scotty s'en sort. Hein. Bon voilà, mais c'est parce que c'est pas très important. Ce qui est important, c'est de voir le copain qui tombe et qui s'écrase au pied de l'immeuble. Et puis la deuxième émotion de Scotty, c'est que il se trouve que là, on va écouter une séquence où le mari d'une dame demande à Scotty, puisqu'ils sont amis, de suivre sa femme. Et donc, il va la suivre en effet. Elle s'appelle Madeleine, cette femme. Il va la suivre, mais il doit la surveiller. Il en tombe même amoureux, parce qu'en effet, c'est une très belle femme, jouée par Kim Novak. Mais elle a décidé de se suicider. Et il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire parce qu'elle se suicide du haut d'un clocher et qu'il est incapable, à cause de son acrophobie, de monter jusqu'au sommet du clocher. Et donc, il ne peut pas l'aider. Et c'est ce qui clôture la première partie du film, puisque le film se décline en plusieurs parties. Scotty, donc le policier, se retrouve cassé par un double échec. Il se sent également coupable, et d'autant que le mari ne se gênera pas pour lui dire « je n'aurais pas dû faire appel à toi ». Et on découvrira que s'il a fait appel à lui, c'est justement parce qu'il était acrophobe. Mais si les hommes dans Vertigo ou Sueur froide sont des créateurs de créatures, les femmes, il faut quand même le reconnaître dans le film, sont très malmenées, bien que sublimées en la personne de Kim Novak. Alors je sais qu'elle s'est très très mal, Hitchcock s'est très très mal entendu avec Kim Novak, parce qu'il prétendait, c'est vrai qu'il a toujours préféré les beautés un peu glaciales comme Grace Kelly, et il s'énervait contre Kim Novak parce qu'elle se mettait un point d'honneur à voir son pull directement sur ses seins sans soutien-gorge, et elle se vantait justement de ne pas avoir de soutien-gorge, ce qui agaçait profondément Hitchcock. Et alors, je ne sais pas pour quelle raison, mais c'est vrai qu'il y a une séquence qui, à mon avis, est un clin d'œil et une petite vacherie que fait Hitchcock dans son film. À un moment, il est chez son ami et tout d'un coup, il dit « mais qu'est-ce que c'est que ce machin-là » Alors, en effet, on présente un énorme soutien-gorge. Alors, elle explique « c'est sans bretelles et sans attache et c'est conçu par un ingénieur en aéronautique. » Voilà, donc c'est quand même un peu une façon d'épingler cette pauvre Kim Novak qui se faisait un point d'honneur à ne pas porter de soutien-gorge. C'est bien une blague à la Alfred, hein, évidemment. Et donc, en revanche, Kim Novak est très bien dans ce rôle. Elle a juste ce petit, ce côté un peu vulgaire qui est un peu nécessaire dans le personnage. Donc, parce que quand je dis que les femmes sont malmenées, oui, parce que cette fameuse Kim Novak, qui tient le rôle de Madeleine, en réalité, sa propre identité, sa vraie identité dans le film, c'est Judy. C'est une jeune femme qui est brune et que Scotty va d'ailleurs rencontrer dans la rue, mais elle a joué deux rôles, c'est-à-dire à deux reprises, elle a été modifiée. Personne ne l'accepte comme étant Judy. Le premier, c'est Elster, donc le mari de Madeleine, qui veut que Judy ressemble à Madeleine pour justement pouvoir la tuer. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, modification, création de Judy en Madeleine, et de la même façon qu'à dans la deuxième partie du film, c'est Scotty lui-même qui est donc Madeleine étant morte, enfin, en tout cas celle qu'il croit être Madeleine, il rencontre Judy, qui tenait le rôle, et il veut lui aussi lui faire endosser les habits de Madeleine, parce qu'il est amoureux de Madeleine, il veut donc, il est amoureux d'une morte, et il veut que Judy ressemble à cette morte. Donc ça veut dire qu'à deux reprises, cette pauvre Judy, elle est transformée, et au fond, elle est transformée comment ? Parce que Elster, le mari de Madeleine, il va écrire une histoire fantastique. C'est-à-dire que lui aussi est un metteur en scène, un conteur. Il va faire croire à Scotty que Madeleine, sa femme, est complètement envoûtée par sa grand-mère qui s'appelait Carlota Valdés. Et Carlota Valdés, dont on peut voir au musée le portrait, qui a eu un passé douloureux. Et donc, ça permettra... Elle a été très, très aimée par un homme qui lui a fait un enfant, mais elle a perdu cet enfant, l'homme s'est barré. Enfin bon, c'est une histoire très, très compliquée. Elle hurlait dans les rues. Donc, c'est déjà un personnage, Carlota Valdés, très étonnant. Et donc, ça permet à Hitchcock de faire passer, et à Elster, de faire passer Scotty par les différents endroits où Carlota a vécu. Ce qui fait que tout d'un coup, sans y croire vraiment, on se demande vraiment, est-ce que par hasard, Carlota ne serait pas en train d'envoûter en effet son arrière-petite-fille. Alors je vous propose d'écouter une séquence, c'est le chapitre 4 dans le film Vertigo, et ce qui est intéressant c'est que ce chapitre 4 commence, nous sommes dans une rue, et puis on voit un personnage passer devant au premier plan, et ben qui est ce personnage ? Ben c'est Hitchcock, il se balade avec je crois une trompette à la main, enfin pas une trompette mais quelque chose qui peut enfermer une trompette, en tout cas un instrument de musique. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la première rencontre entre Elster et Scotty. Écoutez bien, parce que on va voir que c'est un deal intéressant, et sans le savoir vraiment, maintenant qu'on connaît le film, on peut se dire, Elster a une idée derrière la tête, ben oui, c'était supprimer sa femme. Donc écoutons bien cette première séquence. Comment es-tu devenu armateur, Gavin ? C'est donc Scotty qui pose la question à Elster. Ben, je me suis marié. C'est très intéressant. Non, c'est ennuyeux. Tu n'es pas obligé de travailler. Non, mais j'ai des responsabilités à assumer. Ma femme n'a plus de famille. Et je dois veiller à ses intérêts. La société de son père dirige les chantiers de la côte Est, à Baltimore. Et j'ai décidé, puisque je dois m'occuper de l'entreprise, de revenir ici. Je m'y suis toujours plu. Quand es-tu rentré ? Cela fait presque un an. Si tu plais, San Francisco a changé. Tout ce qui est pour moi symbolisé cette ville est en train de disparaître. Alors à ce moment-là, vous avez James Stewart qui se lève. Comme tout cela, c'est là. J'aurais... En effet, c'est une photo de San Francisco au début de sa création. Tu ne devrais pas t'asseoir ? Non, non, ça va. Je suis navré de ce qui t'est arrivé. Et tu as démissionné de la police ? Est-ce pour invalidité permanente ? Non. Je ne peux plus monter d'escalier pentu ou me retrouver en hauteur, comme au bar du top. Mais on trouve plein de bars dans les rues. Que dirais-tu d'un verre ? Non, merci. Un peu trop tôt pour moi. Je pense que nous nous sommes tout dit. Je ne suis pas marié. Je ne vois plus nos anciens amis. Je suis un inspecteur à la retraite et tu es un armateur. Et il s'assoit. Pourquoi m'as-tu fait venir ? Je t'ai appelé Scotty, sachant que tu as démissionné de la police, car je voudrais que tu reprennes ton travail pour me rendre un service. Je veux que tu suives ma femme. Ce n'est pas ce que tu crois. Nous sommes très heureux. Eh bien, j'ai peur qu'on lui veuille du mal. Qui ça ? Une personne morte. Silence, il se regarde.
Scotty ?
Est-ce que tu crois-tu qu'une personne du passé, morte, puisse s'emparer de l'esprit de quelqu'un? Non. Et si je te disais que c'est ce qui est arrivé à ma femme? Je te dirais de l'emmener voir un psychiatre, un psychologue, un neurologue, ou simplement un médecin de famille. Et je me ferai aussi examiner. Tu ne peux pas m'aider. Désolé d'avoir fait perdre ton temps. Merci d'être venu. À ce moment-là, James Stewart se lève. C'est un grand plan séquence. La caméra le suit. Je ne voulais pas être aussi brusque. Ça a l'air idiot, je sais. Tu as toujours autant de tête sur les épaules, on dirait. Tu l'as toujours eu. Tu crois que j'ai tout inventé? C'est Elster qui parle. Je n'ai rien inventé. J'en serais incapable. Parfois, elle me raconte quelque chose et soudain, elle cesse de parler. Ses yeux se voilent, son regard se fige. Elle est ailleurs, loin de moi. C'est une inconnue. Je l'appelle, mais elle ne m'entend pas. Puis après un long soupir, elle revient. Elle me regarde, sans se douter qu'elle était partie, sans savoir où ni quand.
How often does this happen?
Cela arrive-t-il souvent, dit James Stewart. Et elle part se balader, Dieu sait où. Je l'ai suivie un jour. Je l'ai vue quitter l'appartement. Je ne l'ai pas reconnue. Même sa démarche était différente. Elle a pris sa voiture. Elle s'est rendue au Golden Gate Park, à 8 km. Elle s'est assise au bord du lac, contemplant les pylônes sur l'autre rive. Tu sais, les portails du passé. Elle est restée un long moment, assise, sans bouger. Je devais retourner au bureau. Et ce soir-là, je lui ai demandé ce qu'elle avait fait. Elle m'a dit qu'elle était allée au parc au bord du lac. Ben, c'est parfait. Et alors? Le compteur de sa voiture indiquait 150 km. Où était-elle allée? Je dois savoir où elle va et ce qu'elle fait avant d'y mêler les médecins. As-tu parlé à des médecins? Oui, discrètement. Je veux en savoir plus avant de lui faire subir ce genre de traitement. Très bien, je vais la faire suivre par un détective privé. Ils sont fiables, c'est toi que je veux. Je n'y connais rien. J'ai besoin d'un ami en qui j'ai confiance. Je panique. Je suis censé être en retraite, hein. Je ne veux pas être mêlé à tout ça. Nous allons à une première à l'opéra ce soir. Nous dînerons d'abord à Ernie, c'est le restaurant, tu pourras la voir là-bas. Donc, grand silence, ils se regardent. Et ça évoque des souvenirs, donc, fondu enchaîné, et on va se retrouver au restaurant. Donc, c'est évidemment intéressant, et en effet, il va accepter de suivre Judy. Enfin, il ne sait pas que c'est Judy, c'est donc en principe Madeleine, la femme de Elster. Il va la suivre, et donc, il va en tomber amoureux, parce qu'en plus de ça, Hitchcock a fait en sorte que, à chaque fois que notamment elle va passer par le cimetière, où elle va s'arrêter devant une tombe de Carlotta, justement, Valdez, son arrière-grand-mère, à chaque fois, Hitchcock l'a filmée dans un léger brouillard, légèrement vert, ce qui fait que tout d'un coup, c'est comme si, en effet, elle venait d'entre les morts, la lumière verte étant la lumière des morts. Donc, y a, en effet, tout d'un coup, on peut penser, nous, spectateurs aussi, que peut-être, en effet, elle est, inspirée et qu'un mort est rentré dans son cerveau, quoi, voilà. Et donc, le problème, et c'est là que le film est intéressant, c'est que, ce qui n'était pas prévu, Scotty va tomber amoureux de cette Madeleine, la femme de Elster. Et donc, alors qu'il devait juste jouer les détectives, et faire un compte-rendu à Elster, il tombe amoureux. Alors avec Hitchcock, évidemment, tout se complique à cause de l'amour. Scotty n'aurait pas dû tomber amoureux de Madeleine, de la même façon que Judy n'aurait pas dû tomber amoureuse de Scotty. Judy étant celle, comme je vous le disais tout à l'heure, qui a joué le rôle de Madeleine, et puis ensuite celui de Madeleine, toujours. À chaque fois, on lui demande de jouer le rôle de Madeleine. Alors, je voudrais passer au chapitre 30 pour vous faire entendre le moment où, tout d'un coup, il va essayer tout d'un coup, c'est le changement qui est opéré par Scotty, parce qu'il veut que Judy, qu'il a rencontrée dans la rue, dans la deuxième partie du film, ressemble à... Madeleine, cette femme qu'il a aimée.
I'm afraid it's going to take several hours.
Cela va prendre quelques heures. Madame pense que vous devriez rentrer chez vous. On dit ça à Scotty, qui est venu amener Judy pour qu'elle... Alors, vous êtes sûr pour la couleur, hein? C'est une teinture facile. Et le reste, lui demande le maquillage. Nous savons ce que vous voulez. Merci. Et donc, fondu enchaîné, on voit gros plan du regard. On est en train de maquiller ses yeux, ses lèvres. On est en train de teindre ses cheveux, de lui faire les ongles. Et lui, vous entendez la musique amoureuse, parce que James Stewart, il est amoureux, non pas de Judy, mais parce qu'il trouve que Judy ressemble à Madeleine. Il est amoureux d'une morte. Et donc, il est là dans la chambre d'hôtel, il attend, il regarde par la fenêtre. Donc là, il y a un plan séquence, comme Hitchcock les aime. Et donc il est là, il tourne en rond, il se regarde devant une... Enfin, il se regarde pas, mais il est devant une glace. Donc ça aussi, ça joue de la... du côté double de ce personnage, Scotty, qui veut faire de Judy une femme double, puisqu'il veut qu'elle ressemble à Madeleine. Il revient à la fenêtre. Le plan est un peu rapproché. Il attend avec même inquiétude. Et la musique souligne son état d'âme. Et là, il va ouvrir la porte de la chambre et il l'attend dans le couloir. C'est dire à quel point il l'attend. On a le plan du couloir vide. Il s'appuie sur le chambranle de la porte. Et il attend. Et la voici qui arrive. Elle est donc en effet blonde, comme l'était Madeleine. Elle est dans le même tailleur gris. En revanche, il la regarde. Quelque chose n'a pas l'air de lui plaire. On la voit en plan rapproché. Il se rapproche, elle entre dans la chambre. Elle pose son sac. Scotty ferme la porte. Eh bien, les cheveux devaient être tirés, noués sur le cou. Je le lui avais dit, parce qu'en effet, ma belle portait un chignon. Nous avons essayé, mais ça ne m'allait pas. Il touche les cheveux, elle se retourne vivement. Elle aussi est devant le miroir, on la voit double. S'il te plaît, Judy. Le regard est intense entre les deux. Elle paraît gênée et marche lentement avec cette musique qui va crescendo. Elle est devant la porte et elle entre dans la porte de la salle de bain où elle va exécuter en effet ce qu'il lui a demandé. Là, on reste à nouveau sur le plan de James Stewart qui attend qu'elle ait les cheveux relevés comme l'était Madeleine. Il va jusqu'à la fenêtre. Il est dans une grande solitude. Puis il se retourne, lentement. On est face à la porte, c'est son contre-champ. Face à la porte, on fait champ contre champ. Lui qui regarde, il attend la porte qui s'ouvre, où elle va sortir de la salle de bain. Il s'assoit, il est filmé de dos. Il est très inquiet, enfin on sent bien. Et là, tout d'un coup, en off, vous entendez le bruit de la porte qui retourne la tête. Et là, il se lève, il la regarde. Et là, en effet, devant la porte, complètement embrunée, c'est le choix de Hitchcock. Elle est dans un halo vert, comme je vous l'avais signalé lorsque la Madeleine de Elster allait au cimetière. Et là, elle apparaît, blonde, les cheveux relevés, identique à la Madeleine que Scotty a aimée. Elle sourit. Elle se rapproche. Et là, il y a un regard de James Stewart qui est absolument incroyable, d'une émotion forte et évidemment baiser. Et donc là, c'est un plan où ils sont tous les deux enlacés dans une étreinte forte. Et tout d'un coup, la caméra tourne un peu autour d'eux. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière eux, le décor change. Il y a un effet qui montre que cette embrassade qu'ils ont eue, ils l'avaient eue avec Madeleine lorsqu'ils étaient près du clocher où elle s'était suicidée. Et donc ça veut dire qu'ils revoient tout ça, donc c'est fait avec beaucoup de finesse. La caméra tourne autour d'eux et le décor tourne également autour d'eux. Et on aperçoit le fameux chignon qui se termine par une espèce de volute, comme était coiffée Carlotta dans le portrait. Donc, séquence évidemment très forte. Avec un baiser qui n'en finit pas, mais ça, Hitchcock avait l'habitude Il aimait bien des baisers qui n'en finissaient pas. Et sur la fin, évidemment, de la musique, il y a aussi un fondu au noir. Alors, dans cette création donc, de créatures, c'est donc Scotty qui a voulu que Judy devienne Madeleine. Au fond, plus elle s'habille, plus elle se met à nu. Et Hitchcock, d'ailleurs, dit que lorsqu'elle arrive en blonde, hein, puisque c'est la séquence que l'on vient de voir, avec les cheveux défaits, je cite Hitchcock qui parle de cette séquence. James Stewart n'est pas complètement satisfait parce qu'elle n'a pas relevé ses cheveux en chignon. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, ça veut dire qu'elle est presque nue devant lui et qu'elle se refuse encore à enlever sa petite culotte. Alors James Stewart se montre suppliant et elle dit « D'accord, ça va !» et elle retourne dans la salle de bain. Et James Stewart attend, il attend qu'elle revienne nue cette fois, prête pour l'amour. Voilà, donc c'est là le sens évidemment de cette séquence qui est assez formidable et c'est vrai que c'est tout à fait ça que l'on ressent. Mais chez les femmes, il y a quand même de la vengeance dans l'air. Quand je disais qu'elles étaient assez malmenées, il y a quand même de la vengeance dans l'air parce que Carlotta Valdés, qui est donc un instrument pour Elster, donc le mari, cette femme malmenée par la vie, dans son portrait, il se trouve qu'elle a un bijou tout à fait remarquable autour du cou. Et un bijou qui est resté dans la famille et que Elster n'a pas hésité à donner à Judy pour la remercier du rôle qu'elle a joué. Et il l'a payé également. Et c'est ce bijou qui va révéler à Scotty que Judy était bien celle qu'il croyait être Madeleine, la descendante de Carlotta. Donc c'est une vengeance du passé, une vengeance de Carlotta. Et Judy a accepté d'être Madeleine, donc d'abord pour de l'argent, avec Elster, et puis par amour, pour Scotty, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le grand problème, c'est que Judy est tombée amoureuse de Scotty James Stewart. Alors la vengeance qui va se terminer dans le film, là aussi c'est comme un quiproquo, comme un gag monté par Hitch, parce que quand il est au sommet de l'église, dans le clocher, arrive tout d'un coup une religieuse qui est dans la pénombre. Et c'est parce que Judy a peur, comme si elle revoyait le mari qui va tuer sa femme, elle a peur de cette silhouette qui arrive, elle tombe, ce qui est absolument invraisemblable, mais en même temps ça n'a pas d'importance, on est en train de faire peur, on est en train de jouer et de créer une histoire romanesque. Donc c'est intéressant qu'on ne soit pas du tout dans la réalité, dans la vérité pure. Je vous propose qu'on écoute la dernière séquence où justement la religieuse arrive, c'est le chapitre 33. Voilà, donc ils arrivent tous les deux parce que Scotty a compris que Judy, en effet, lui a joué un rôle et était Madeleine. Alors il se souvient et ils vont revivre exactement ce qu'il a vécu avec Madeleine. Il monte, mais le problème c'est qu'à l'époque il ne pouvait pas monter parce qu'il était justement acrophobe. « J'ai essayé de la suivre mais je n'ai pas pu », dit-il. « Je n'ai pas pu atteindre le haut de la tour. Les secondes chances sont rares, je ne veux plus être hanté. Ma seconde chance c'est toi, Judy. Tu es ma seconde chance. Je veux partir. Tu ressembles à Madeleine maintenant. Monte les escaliers, monte les escaliers. » Monte, Judy. Je vais te suivre. Donc elle commence à monter. La musique se fait angoissante, musique formidable évidemment de toujours Bernard Herrmann, le musicien de Hitchcock. Donc la musique ponctue les marches que Judy, suivie de Scotty, monte. Et là, à nouveau, Scotty regarde le en bas. Et donc, à chaque fois, vous voyez, il y a quand même encore, il est encore plein de ce vertige. Il regarde à nouveau en bas, à nouveau le même bruit qui ponctue, mais il continue. La façon dont il a créé ces créatures lui permet lui-même de se recréer d'une certaine façon. Il continue à monter les escaliers. Je n'ai pas pu aller plus loin, mais tu as continué. Tu te souviens ? Le collier, Madeleine. Tu t'es trahi. Je me souvenais du collier. Elle veut te redescendre. Lâche-moi. On va monter. Tu ne peux pas, tu as peur. On verra bien. C'est ma seconde chance. Tu savais que je ne pourrais pas te suivre. Qui était là-haut ? Elster et sa femme ? Oui. Et c'est elle qui est morte ? La vraie épouse, pas toi ? Tu n'étais qu'une copie, une imitation ? Était-elle vivante ? Elle était morte, le cou brisé. Il n'a rien laissé au hasard. Quand tu es monté, il l'a poussé. Tu as crié. Pourquoi ? Je voulais l'arrêter. Je courais pour l'arrêter. Pourquoi as-tu crié ? Tu m'avais si bien berné jusqu'alors. Tu jouais très bien le rôle de l'épouse. Il t'a bien remodelé, n'est-ce pas ? Comme je l'ai fait. Mais en mieux, pas seulement les cheveux, mais l'apparence, les manières et toutes ces fausses transes. Tu as sauté dans la baie. Je parie tu es une excellente nageuse. Tu as raison, j'ai raison, oui. Qu'a-t-il fait ensuite ? Il t'a préparé, il t'a fait répéter. Il te disait ce que tu devais dire et faire. Tu étais une élève douée, n'est-ce pas ? Mais pourquoi m'avoir choisi ? Ton accident. Mon accident ? J'étais la pièce manquante ? Le témoin idéal ? J'étais... Il regarde le sol, et là, il n'a plus peur. Il n'a plus de vertige. J'ai réussi. Que vas-tu faire ? Nous allons monter voir le lieu du crime. Allez, Judy. Et les voilà qui remontent, la musique les aide, évidemment, si je puis dire. Et donc on voit, elle se laisse traîner, elle ne veut pas y aller, et là, les voilà au sommet, devant les ouvertures par lesquelles, évidemment, il a jeté sa femme. Et c'est ici que ça s'est passé. Il y a une cloche au premier plan. Vous vous êtes cachés jusqu'à ce que tout le monde soit parti. C'est bien ça ? Et puis tu es devenue sa maîtresse ? Que s'est-il passé ? Gros plan sur Judy. Il t'a laissé tomber. Avec l'argent de sa femme, il était libre, puissant. Et il a osé te faire ça. Il n'avait rien à craindre, tu ne parlerais pas. Il t'a donné quelque chose ? De l'argent. Et le collier ? Celui de Carlotta ? C'était une grave erreur, Judy. On ne doit pas garder de souvenirs d'un meurtre. Là où nous sommes dans une série de chants contre chants, tu n'aurais pas dû te montrer aussi sentimental. Il se regarde. Chant contre chant, je t'aimais tellement, Madeleine. Je n'avais rien à craindre quand tu m'as retrouvée. Quand je t'ai revue, je n'ai pas pu m'enfuir. Je t'aimais tellement. Je me suis mise en danger, je me suis transformée, par amour. Scotty, je t'en prie, tu m'aimes, tu me protégeras. Elle se rapproche de lui, elle se jette dans ses bras. Je t'en prie, c'est trop tard, rien ne peut la ramener. Je t'en prie, il reste encore amoureux de, au fond, de Madeleine, quoi, de la morte. C'est pour ça que Hitchcock a dit c'est un film nécrophile. Et là, tout d'un coup, on a entendu du bruit. C'est la religieuse, j'ai entendu des voix, et en off, elle se jette par la fenêtre. La religieuse fait un signe de croix, que Dieu ait pitié d'elle, et elle sonne les cloches, le glas. Et là, on aperçoit, dans le clocher, James Stewart, dont Scotty, qui sort et qui se met sur un petit muret, complètement face au vertige, et ça se termine par un fondu enchaîné. C'est-à-dire qu'au fond, en créant des créatures, tout ça l'a aidé pour se sauver lui-même et perdre sa maladie, quoi, d'une certaine façon. Donc voilà, vous l'avez compris. C'est un film assez exceptionnel. On peut le revoir et le re-revoir sans problème. Et donc, j'ai envie de dire, pour terminer, pour conclure autour de ce film, je voudrais conclure en vous citant Eric Rohmer. En 59, il affirmait dans les cahiers du cinéma, et je cite, il parlait de Hitchcock, « Tout comme Fenêtre sur cour et L'homme qui en savait trop, Vertigo est une sorte de parabole de la connaissance. Le détective, fasciné dès le début par le passé, figuré par le portrait de Carlotta Valdés à laquelle la fausse Madeleine prétend s'identifier, sera continuellement renvoyé d'une apparence à une autre apparence, amoureux non d'une femme, mais de l'idée d'une femme. Et c'est parce que la forme est pure, belle, rigoureuse et étonnamment riche et libre qu'on peut dire que les films d'Hitchcock et Vertigo en premier chef ont pour objet les idées au sens noble, platonicien du terme. » C'était donc, je viens de vous citer, Eric Rohmer dans Les Cahiers du cinéma en 1959, quand il parle de Vertigo de Hitchcock. Voilà ce que l'on pouvait dire, en gros, de Hitchcock. Merci Stéphane. Donc, nous nous revoyons, nous nous réécoutons mercredi prochain.